Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la Turquie. Géopolitique est à Grenoble, dans les murs de l'Institut de Sciences Politiques, à l'occasion de la tenue des journées internationales organisées par le Master Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po et la chaire Méditerranée-Moyen-Orient de la région Rhône-Alpes. Regard sur la Turquie après l'élection le week-end dernier visant à renouveler l'Assemblée nationale et la victoire de l'AKP qui permettent au président Erdogan de retrouver ce qu'il avait perdu au printemps dernier, une majorité absolue au Parlement, une victoire sur fond de terrorisme et de tensions régionales. Regard sur les enjeux qui se posent à la Turquie, enjeux nationaux et régionaux. Avec nos invités, Jana Jabour, spécialiste de la diplomatie turque au Moyen-Orient, enseignante en relations internationales à Sciences Po et chercheur associé au CERI. Bonjour.
Bonjour.
Max Valentin Robert, doctorant à Sciences Po Grenoble et spécialiste des questions électorales turques. Bonjour.
Bonjour.
Jean Marcou, directeur du master Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble et rédacteur du blog ovipote.hypothèse.org. Bonjour.
Bonjour.
Et avec moi pour animer cette émission, Léo Maillet, étudiant du master Méditerranée Moyen-Orient ici à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Comment analysez-vous le scrutin et comment finalement expliquer cette victoire d'Erdogan 5 mois après son échec du printemps dernier? C'est un peu une surprise. Jana Jabour.
Tout à fait, c'est une grande surprise, mais je pense qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent nous éclairer et qui peuvent expliquer justement cette victoire électorale de l'AKP. D'abord, il paraît que la situation sécuritaire dans le pays a joué en faveur de l'AKP. L'électorat turc a vu en ce parti la seule voie de sauvetage et je dirais le seul garant de la stabilité et de la paix dans le pays. Cette victoire nous dit aussi très long sur l'opposition en Turquie. L'opposition est divisée. Elle reste constituée de partis élitistes qui sont complètement déconnectés de la profondeur de la société turque, alors qu'à l'inverse, l'AKP a réussi à gagner ses élections précisément parce qu'il est ancré dans la profondeur de la société turque et parce qu'il a réussi à se présenter comme le porte-parole des sans-voix, le porte-parole de ces soi-disant Turcs noirs qui ont toujours été exclus et marginalisés du centre politique par l'establishment kémaliste. Et enfin, peut-être un troisième facteur, c'est qu'il s'est avéré qu'entre les élections de juin dernier et les élections du 1er novembre, le parti pro-kurde, donc le parti HDP, a déçu son électorat. En ce sens que l'électorat a voté pour lui parce qu'il voulait une pacification à la question kurde à l'intérieur de la Turquie, mais il s'est avéré que ce parti était incapable justement d'empêcher une reprise de la violence entre le PKK et l'armée turque. Donc en ce sens, je dirais que l'ombre du PKK pèse très lourd sur le revers électoral du parti pro-kurde, le HDP.
Alors c'est intéressant effectivement de connaître le contexte. L'HDP qui avait réalisé un score somme toute assez honorable de 13% au printemps dernier, qui cette fois-ci dépasse à peine 10%. Jean-Marc Roux, vous partagez ce que vient de dire Jana Jabour?
Oui, je serais un peu moins catégorique sur l'échec du HDP parce que il ne faut pas oublier quand même que le HDP franchit la barre des 10% dans une situation qui était relativement défavorable, effectivement, pour lui. Donc, il persiste, en quelque sorte, et s'inscrit dans le système politique turc de façon durable. Que de surcroît, le plus grand perdant du scrutin n'est pas le HDP, mais est le parti nationaliste, le parti du mouvement nationaliste, qui perd pratiquement la moitié de ses députés par rapport au mois de juin dernier. Et de ce fait, le parti HDP se retrouve finalement troisième force politique au sein du Parlement. Alors c'est vrai, ce que disait Jana est vrai, c'est qu'il a perdu des voix, y compris dans les zones kurdes. Hein, il y a des déplacements de voix dans un certain nombre de départements qui sont de l'ordre de 10, parfois 20%, donc c'est net. Il a perdu des voix aussi dans d'autres endroits où il avait eu, finalement, rencontré un succès. Mais malgré tout, d'une certaine manière, c'est un recul, mais un recul qui confirme, dans une situation défavorable, qu'il fait désormais quand même partie du paysage politique turque. Je crois que la surprise, pour terminer, elle vient peut-être du fait que ces élections n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'en juin. En juin, on avait un scrutin qui a été protestataire, où justement le HDP a été une fenêtre d'opportunité pour infliger un revers à l'AKP qui gagnait tout le temps, mmh. d'une certaine manière. Alors que là, on était dans une situation très difficile, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national. Et il fallait, d'une certaine manière, que la Turquie soit gouvernée. Le problème était, et ça c'est un problème peut-être inhérent au système turc des partis actuels, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative en Turquie. Et il était difficile d'avoir une solution alternative. Protester contre la KP, ça a été possible finalement en juin. C'était plus possible d'avoir une alternative et d'avoir finalement un gouvernement alternatif à la KP au mois de novembre. Et c'est peut-être pour ça qu'au bout du compte, la KP a gagné.
Alors, autre question, et après ça, je vous passe la main, Léo Maillet. Et c'est vers vous que je me tourne, Max Valentin-Robert, sur la question de la campagne électorale. Peut-être aussi le manque d'accès facile aux médias pour les partis autres qu'à la KP. Est-ce que précisément, ça n'a pas joué en la défaveur, évidemment, notamment de l'HDP?
Oui, effectivement, on a constaté pendant cette élection que l'AKP avait un temps de parole bien supérieur à ses concurrents dans les médias. Et d'ailleurs, la campagne électorale elle-même a été plusieurs fois épinglée, notamment par l'OSCE, mais également par un rapport conjoint de l'OSCE, du Parlement européen et du Conseil de l'Europe, qui critiquait le déroulement de ce scrutin qui, selon eux, s'est déroulé dans une ambiance délétère. Ce qui explique aussi, à mon avis, cette remontée de l'AKP pendant cette campagne électorale, c'est aussi des facteurs aussi bien conjoncturels que structurels. Les facteurs structurels, c'est que si on regarde l'histoire électorale turque sur le long terme, la droite turque est divisée en plusieurs tendances, des libéraux, des conservateurs modérés, des islamistes et des nationalistes. Jusque-là, l'AKP réussissait à séduire les électeurs libéraux, islamistes et conservateurs modérés, et pas encore l'électorat nationaliste. Or, ce qu'a fait l'AKP pendant cette campagne, c'est qu'il a ouvertement chassé sur les terres du parti nationaliste MHP, en allant même jusqu'à parfois recruter dans ses rangs des anciennes figures du parti nationaliste, comme le fils du fondateur du MHP, Tuğrul Türkeş, comme le parrain mafieux et leader ultranationaliste Sedat Peker. Et l'autre, à mon avis, l'autre facteur structurel important qui explique ce retour de l'AKP, c'est aussi le fait qu'une partie du vote kurde est conservateur. Par exemple, même lors des élections de juin, si on prend le cas de la province de Bingöl, qui est connue pour être un fief de l'électorat kurde conservateur, le HDP était encore en tête. Et si on regarde les résultats maintenant, entre juin et novembre, ils ont gagné 17 points en fait. Alors ça, c'est les facteurs conjoncturels qui, à mon avis, expliquent ce retour de l'AKP. Et les deux facteurs structurels, à mon avis, c'est la dimension d'instabilité. Les Turcs ont très peur d'instabilité. Et puis aussi, les Turcs gardent un très mauvais souvenir des gouvernements de coalition des années 90. Et voter AKP était vu comme voter pour le parti de la stabilité.
Alors effectivement, la question qui va se poser est de savoir si cette élection et son résultat vont apporter la stabilité dont a besoin la Turquie. Léo Maillet.
Alors, moi, j'aimerais revenir sur le contexte de cet été, où il y a eu une rupture du cessez-le-feu entre le PKK et le gouvernement qui a eu lieu fin juillet, et de nombreux bombardements qui ont été menés dans la partie sud-est du pays qui est connue pour être un foyer du PKK. Simplement, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous pensez du rôle qu'a pu avoir le HDP, à la fois vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis de l'électorat turc et de l'opinion publique? Comment a été présenté le HDP dans les liens qu'il pouvait avoir avec le PKK?
Qui veut répondre? Jeanne Jabour.
En fait, le problème du HDP, c'est qu'il a été pris entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que le HDP était incapable, au nom du nationalisme kurde, il était incapable de se distancier vis-à-vis du PKK, alors que justement, une grande partie de l'électorat kurde voulait une distanciation avec le PKK, parce que cette partie de l'électorat kurde n'adhérait pas aux moyens et aux techniques terroristes du PKK. Donc le HDP n'a pas réussi à se distancier de cette organisation terroriste, que certains labellisent comme terroriste, et donc ce qui fait qu'il a perdu énormément de voix.
Jean-Marcou.
Je crois qu'il y a eu une évolution en fait de la position du HDP, de la réaction d'opinion publique. Au départ, je crois que le HDP n'a pas si mal réagi, c'est-à-dire qu'il a tenté de pacifier, de faire le lien entre le gouvernement et le PKK, de continuer un peu ce qu'il avait fait pendant le processus de paix, c'est-à-dire d'être un élément de stabilisation, de pacification. Le problème, c'est que la situation s'est quand même dégradée à l'extrême. Il y a eu une accélération de la dégradation. Bon, au départ, c'est une reprise de la guérilla, mais si vous regardez ce qui se passe à partir du mois de septembre, il y a des zones qui vont être soumises à couvre-feu. Il y a des manifestations nationalistes qui dégénèrent. Et puis, il y a surtout l'attentat du 10 octobre, l'attentat de la gare d'Ankara.
Qui a fait
centaine de morts et qui met l'opinion publique véritablement sous le choc. Et c'est vrai que les élections de novembre ont d'autant plus surpris qu'on n'a pas vu les tendances politiques évoluer au cours du mois d'octobre. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il était beaucoup plus difficile de faire des sondages dans ce contexte. D'autre part, parce que à la fin de la période, lors de la dernière semaine, enfin des 10 derniers jours, il n'était plus possible de faire des sondages, un petit peu comme en France, on ne peut pas faire des sondages en période électorale. Donc on n'a pas vu vraiment l'opinion changer, notamment le vote nationaliste changer et se rabattre quand même de façon très forte en direction de l'AKP. Et c'est peut-être de là que la surprise est venue.
Vous écoutez RFI. Marie-France Chatin.
Max Valentin-Robert, vous souhaitez rajouter quelque chose
et... Par rapport à la question des sondages, effectivement, il y a eu cette question du décalage, c'est-à-dire qu'on n'a pas perçu effectivement l'évolution de l'opinion publique turque par rapport aux résultats qui allaient venir, en fait. Et d'ailleurs, ça a été souligné par l'universitaire Fatih Keskin, qui a bien démontré que, notamment dans les zones du sud-est, il a été très difficile pour les sondeurs de réaliser des enquêtes, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a aussi pas pu percevoir l'éventuelle remontée de l'AKP dans les zones kurdes, par exemple, ou, comme l'a souligné Jean-Marc Roux, dans les régions votant habituellement nationalistes.
Léo Mayette.
Alors, peut-être un mot à dire sur le rôle de la police et des institutions judiciaires turques, sur le fait qu'on a eu toujours un espèce d'échange entre le gouvernement et le HDP, qui était... présenté vis-à-vis de l'opinion publique comme la phase découverte un petit peu du PKK, sur laquelle il fallait se venger à chaque fois qu'il y avait des morts dans l'armée suite à des échanges de tirs entre le gouvernement et le PKK. Je pense notamment aux manifestations nationalistes dont vous avez parlé, Jean-Marc Roux, début septembre, qui ont en fait été menées en réaction à plus d'une quinzaine de morts d'un convoi militaire attaqué par le PKK dans le sud-est du pays. Cette revanche, elle a été prise directement sur les membres du parti du HDP, qui ont été non seulement attaqués en tant que personnes, mais qui ont vu aussi leur bureau systématiquement attaqué par des militants nationalistes. Qu'est-ce que vous pouvez dire du rôle de la police, le rôle qu'elle a joué dans ces attaques-là et la manière dont elle les a éventuellement encadrées?
Après ça, on passera à une projection sur les enjeux sur la police. Qui souhaite répondre ? Jeanne Ajabour, Jean-Marc Roux, Jeanne Ajabour.
Vous le soulignez très bien, il y a eu une politique, je dirais, de démonisation du HDP, une véritable chasse aux sorcières qui a été menée par la police et par le gouvernement AKP contre ce parti-là, et qui, justement, a contribué à polariser encore plus l'opinion publique et à présenter les élections comme, je dirais, une bataille entre nationalisme, ou une dispute entre nationalisme kurde et nationalisme turc. Donc, ce qui a eu des conséquences assez désastreuses quand même sur aujourd'hui le climat politique assez tendu en Turquie.
Jean-Marco, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Oui, mais je pense que la situation, effectivement, a été une situation très difficile. Bon, le rôle de la police à la fois en Turquie avait une mauvaise image, notamment à la suite des événements de Gezi, et notamment avec la répression, l'usage de gaz lacrymogène. Ceci dit, on n'a pas été simplement dans une répression de la police, c'est allé beaucoup plus loin, hein, dans le sud-est, puisque là, c'est des forces de sécurité spéciales qui ont été mobilisées. Et là, on était plus simplement dans de la gestion traditionnelle du maintien de l'ordre, mais véritablement dans une gestion de mouvements qui, à un moment, ou d'événements qui, à un moment, ont pris un aspect quelque peu insurrectionnel. Si vous pensez à ce qui s'est passé notamment à Cizre au début du mois de septembre, où on a eu 8 jours de couvre-feu et une situation très très particulière qui donnait effectivement l'impression que ce pays était en train de basculer un petit peu comme les pays avoisinants.
Alors, on décrit une société turque très, très polarisée. Peut-être ce serait intéressant de revenir un petit peu dessus. Est-ce qu'elle est aujourd'hui plus que jamais polarisée, une semaine après ce scrutin? Et rapidement, comment est-ce que Erdogan va vouloir et va pouvoir gouverner? Il a beaucoup été question d'une réforme de la Constitution. Elle ne va pas pouvoir se faire aussi facilement que cela. Où est-ce qu'on en est, Jeanne Ajaboud?
Oui, alors polarisation, oui, je dirais même polarisation extrême. Et ce qui est triste, c'est que à l'annonce des résultats des élections dimanche soir, on a vu l'image justement de deux Turquies. Une Turquie joyeuse, triomphante et triomphale, et de l'autre côté, une Turquie triste, en grande partie formée des Kurdes, qui justement, une partie d'entre eux, ont contesté le résultat de ces élections. Aujourd'hui, c'est un grand défi qui se pose à l'AKP, et au président Erdogan, que de ressouder la nation turque pour pouvoir mieux gouverner le pays. Si Turcs et Kurdes ne se remettent pas d'accord et qu'il n'y a pas une solution durable à la question kurde qui est trouvée, je pense que la Turquie sera ingouvernable d'ici 2019, date de la nouvelle échéance électorale.
Max Valentin-Robert, justement, comment est-ce que le président Erdogan va-t-il pouvoir faire revenir la question kurde?
Alors justement, par rapport à cette question de polarisation liée à la question kurde, c'est justement un changement très récent dans la gestion de l'AKP, justement, puisque à la base, l'AKP a toujours plus ou moins joué la carte de la polarisation dans ses campagnes électorales. Mais avant, c'était surtout en se centrant en fait sur l'antagonisme qu'on appelle en Turquie l'antagonisme entre Turc blanc et Turc noir, c'est-à-dire entre Turc religieux d'origine populaire et Turc sécularisé appartenant à l'ancienne élite kémaliste. Et la nouveauté de ces deux scrutins, ceux de juin et ceux de novembre, c'est qu'en plus de cette polarisation entre Turc blanc et Turc noir, on sent de la part de l'AKP une volonté de créer une polarisation désormais entre Kurdes et Turcs. Et c'est assez inédit dans le discours de l'AKP qui, jusque-là, avait un discours assez kurdophile et qui correspondait assez bien à une certaine continuité par rapport à l'histoire des mouvements islamistes en Turquie qui, par volonté de prendre le contre-pied à l'égard du discours kémaliste, tendait la main aux Kurdes au nom d'une identité musulmane partagée.
Jean-Marc Roux, sur la question de la Constitution, peut-être?
C'est assez, d'ailleurs, surprenant de voir qu'une des premières préoccupations de l'AKP et du président ont été de relancer ce projet de réforme de la Constitution, et en particulier le projet de présidentialisation ou d'établissement d'un régime présidentiel. Parce que c'est un peu là-dessus que l'AKP a perdu en juin. Et c'est tellement vrai que en novembre, lors des élections anticipées, au contraire, ce débat sur le régime présidentiel a été en quelque sorte mis sous le boisseau. Alors, c'est assez intéressant de voir que c'est relancé, et ça pose pas mal de problèmes, parce que d'abord, techniquement, le gouvernement n'a pas les moyens, formellement, de relancer cette réforme, puisque s'il a une majorité absolue à nouveau, qui est de 317 députés, il n'a pas les 367 députés qui permettent d'avoir cette majorité renforcée pour réformer la Constitution. Alors bien sûr, il va lui falloir passer des alliances au sein du Parlement, mais on se demande quelles peuvent bien être ces alliances, puisque la situation est malgré tout très polarisée. Et on peut se demander si on ne va pas chercher une voie tierce, c'est-à-dire essayer de trouver un moyen de contourner les procédures constitutionnelles, traditionnelles. Après tout, la réforme constitutionnelle inconstitutionnelle, en France, on est bien placé pour savoir que ça existait dans le passé. Donc pourquoi un tel scénario ne se produirait-il pas en Turquie? C'est une question qui est posée.
Léo Maillet, très rapidement, une dernière question pour terminer cette première partie d'émission.
Alors, dans le cas éventuel d'un référendum, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les réactions que l'opinion publique turque pourrait émettre vis-à-vis de se voir placer entre les mains le choix de cette présidentialisation?
Alors, peut-être que je vous propose de réfléchir le temps du journal d'information sur cette question et nous reprendrons dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Jeanne Ajaboud, Max Valentin-Robert, Jean-Marc Roux et Léo Maillet dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Turquie depuis l'Institut de sciences politiques à Grenoble à l'occasion de la tenue des journées internationales organisées par le Master Méditerranée et Moyen-Orient de Sciences Po. Nous retrouvons nos invités, Jeanne Ajabour, spécialiste de la diplomatie turque au Moyen-Orient, enseignante en relations internationales à Sciences Po et chercheur associé au CERI, Max Valentin Robert, doctorant à Sciences Po Grenoble, spécialiste des questions électorales turques, et Jean Marcoux, directeur du Master Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble, et avec moi pour animer cette émission, Léo Maillet, qui est étudiant du Master Méditerranée Moyen-Orient ici à Sciences Po. Léo Maillet.
Alors, une question pour vous, Jean Marcoux. Dans l'éventualité d'un référendum sur la présidentialisation du régime, quelles pourraient être les réactions de l'opinion publique turque face à un tel choix ?
Il faut d'abord expliquer que ce référendum ne pourra pas se produire comme ça de but en blanc, hein, sauf si justement on contourne les procédures constitutionnelles ou si on les aménage. Il y a déjà eu des référendums au cours des 10 dernières années organisés par l'AKP. Il y en a eu un en 2007 qui était organisé après une grande victoire électorale de l'AKP. Justement, le référendum qui a instauré une présidence élue au suffrage universel et qui a contribué à une modification forte du système politique turc et notamment à cette semi-présidentialisation du système politique turc. Et il y a eu un référendum également sur une modification constitutionnelle qui portait plutôt sur le pouvoir judiciaire, qui a été lui plus disputé en septembre 2010. Bon, ces trois référendums ont été remportés effectivement par l'AKP. Également, une autre élection qui est une consultation électorale qui est beaucoup plus facile à interpréter que les élections législatives, l'élection présidentielle a été remportée par Recep Tayyip Erdogan en août 2014. Ce que l'on peut dire, c'est que donc il y a malgré tout quand même une certaine érosion sur ces votes très nationaux et avec des enjeux très forts entre 2007 et 2014, puisque Recep Tayyip Erdogan a gagné au premier tour, mais avec 51% des voix, alors que le référendum était un résultat beaucoup plus large. Sur la question de la présidentialisation du régime, on a des sondages qui montrent quand même que les Turcs, dans l'ensemble, sont assez réticents depuis le début à cette réforme. Est-ce que, dans le contexte actuel, ça c'est possible aussi, c'est-à-dire dans un contexte de tension, l'opinion publique va évoluer sur cette question ? C'est une question qui est posée après les élections. Mais jusqu'à présent, il y a eu globalement plutôt un rejet. Et il ne faut pas oublier que lors des élections de juin, l'un des éléments qui explique l'échec de l'AKP, ou tout au moins le revers qu'il a subi, puisqu'il ne faut pas oublier quand même qu'il est resté premier parti, bon, lors de ces élections, probablement un des éléments d'explication est le faible enthousiasme des Turcs pour un régime présidentiel.
Alors peut-être une question qui va nous permettre de faire la transition sur les enjeux régionaux, mais on reste encore quelques instants sur les enjeux nationaux. Erdogan et son parti, l'AKP, ont fait beaucoup pour la Turquie dans les années 2000. Est-ce qu'ils sont toujours l'un et l'autre bons pour la Turquie aujourd'hui ? Jeanne Ajabour.
Alors, il est difficile de dire s'ils sont bons ou pas, mais clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet d'usure du charisme donc d'Erdogan, que les Turcs le soutiennent, parce qu'ils voient en lui non seulement la figure du chef de l'État, mais aussi l'incarnation de la figure du père, du sauveur de la nation, du guide. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, au-delà d'avoir beaucoup fait pour la Turquie et d'avoir transformé la Turquie en une puissance émergente sur la scène régionale et internationale, l'AKP a su aussi nourrir des réseaux clientélistes très forts et très profondément ancrés dans la société turque, et que ces réseaux continueront justement à le soutenir. Aujourd'hui, l'AKP, au-delà d'avoir le soutien des grands groupes d'industriels et d'entrepreneurs, représentés par exemple par le groupe de la Musiade, il obtient aussi le soutien de la classe moyenne et des petites classes qui, en fait, voient en lui le parti qui leur a offert l'électricité, la scolarité pour leurs enfants, le logement, etc. Donc, quand ils votent pour l'AKP, et je vois qu'ils vont continuer à voter pour l'AKP, quand ils votent pour lui, ils ne votent pas parce que c'est un parti islamiste, mais justement parce qu'il garantit leurs intérêts.
Et pourtant, la situation économique du pays n'est pas particulièrement favorable à Erdogan et à l'AKP.
Mais justement, dans toute la campagne électorale, la diplomatie publique de l'AKP a consisté à justement souligner le fait que si l'AKP est reconduit au pouvoir, alors il serait le gage d'un retour à la stabilité, à la consolidation de l'économie. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il y a ce projet à l'horizon 2023 de faire de la Turquie l'une des 10 économies les plus importantes du monde.
Donc un projet particulièrement mobilisateur, Max Valentin-Robert.
Oui, effectivement, parce que l'AKP a cette particularité de séduire l'électorat turc aussi bien sur les enjeux conflictuels liés à la religion, liés à la place de la femme dans la société, liés à la question du rapport entre laïcité et religion. Mais il a aussi la particularité de pouvoir séduire l'électorat turc sur son bilan économique passé. Comme nous l'avions souligné précédemment, pour la plupart des Turcs, la période avant 2002 est perçue comme une période d'instabilité pour les Turcs. Et l'AKP, aujourd'hui, continue de capitaliser électoralement sur le rôle qu'il a eu dans les années 2000 comme non seulement outil d'accroissement des performances économiques turques, mais également, du fait de ses liens avec le Mussiad souligné par ma voisine, mais également comme un outil de démocratisation du système politique turc face à l'establishment kémaliste. Et peut-être que le tournant autoritaire de l'AKP qu'on ressent depuis un ou deux ans pourrait contribuer à donner une autre image de ce parti qui ne serait pas sans conséquence sur le plan électoral.
Alors, votre voisine, pour les auditeurs qui ne nous voient pas, Jeanne Jabour et Max Valentin-Robert sont assis l'un à côté de l'autre. Jean-Marc Roux.
Oui, simplement rebondir sur ces questions économiques. Il faut voir que l'AKP aussi est un des éléments probablement d'explication de ça. De sa victoire de dimanche, c'est qu'il a fait quand même beaucoup de promesses. Il a repris un langage lors de cette campagne, un langage très économique et social, qu'il avait un peu négligé aussi en juin. Il a fait quand même beaucoup de promesses sur les retraites, sur le salaire minimum. Ces promesses coûtent cher, et il va falloir les mettre en œuvre. Alors, effectivement, il a un atout aussi, c'est qu'il y a eu un certain rebond inattendu de l'économie turque depuis le début de l'année. Mais rien ne dit que ce rebond est durable. Et en tout cas, il faudra effectivement tenir au moins une partie de ses promesses pour être crédible. Parce que, bien sûr, il y a, je dirais, cette divine surprise du mois de novembre. Mais comme je le disais, malgré tout, les partis d'opposition, en particulier le parti kémaliste et le parti HDP, ont conservé des positions qui sont non négligeables au sein du Parlement. La situation non plus internationale, régionale, est une situation très tendue et donc la Turquie ne sera pas facile non plus à gouverner dans les prochaines années.
Léo Maillet.
Alors moi j'aimerais revenir sur la crédibilité justement des députés de l'AKP qui avaient été entachés au printemps dernier par un nombre de scandales impliquant non seulement des députés mais en plus des membres de la famille d'Erdogan. Est-ce que le parti a la capacité de résister longtemps à ces scandales et de faire face à une opinion publique qui parfois est demandeuse de critiques?
Scandale de corruption, juste pour préciser, essentiellement, c'est cela que vous entendez, Léo Maillet.
Voilà, c'est ça.
Face à ces histoires de scandale, l'AKP a recours à un autre récit tout aussi mobilisateur, qui est celui du complot. La Turquie fait face à un grand complot de la part de la Syrie, des États-Unis, de l'Europe, des ennemis intérieurs. Et donc, soutenez-moi, parce qu'en fait, tous ces scandales autour de la corruption de mon fils, notamment, eh bien, ils sont fomentés par les ennemis de la nation turque.
Jean-Marc Roux.
Oui, je pense, pour répondre à votre question, qu'il a la capacité de résister. D'ailleurs, il en a déjà fait la preuve. Et un des éléments de résistance sur ce plan-là de l'AKP, ça a été une épuration quand même impressionnante de la police depuis le grand scandale de décembre 2013. Je crois plus de 80 000 policiers, officiers ont été réaffectés, mis à pied ou mutés. Ce qui ne s'est jamais produit, même au moment des coups d'État, une telle ampleur de l'épuration. Et la justice a quand même été aussi l'objet de mesures très importantes. Tout ça fait que aujourd'hui, les chances d'aboutissement des procès sont quand même relativement limitées, que la justice est beaucoup moins incisive, la police beaucoup moins incisive qu'effectivement au moment du grand scandale de 2013. Ce qui aurait pu peut-être faire changer les choses, c'est effectivement s'il y avait eu une alternance au pouvoir. Et ces dernières semaines, ce qui a été très commenté, c'est le départ du fils de Recep Tayyip Erdogan, Bilal Erdogan, en Italie, soi-disant pour terminer ses études doctorales. Beaucoup ont pensé qu'il fuyait la justice pour le cas où il y aurait eu un changement de gouvernement. Alors d'ailleurs, quand les choses se sont probablement mieux présentées, il est rentré quelques jours avant l'élection pour dire que son déplacement n'avait rien à voir avec des raisons politiques.
Sur le plan géopolitique, évidemment, la proximité, une frontière commune avec la Syrie, est-ce que l'on peut attendre une approche nouvelle de la part du président Erdogan sur la question syrienne, avec, le cas échéant, davantage de coopération avec les Européens et les alliés de l'OTAN ? Jeanne Ajabour.
Alors, ce qui est affligeant aujourd'hui, c'est qu'il semble que l'AKP n'a tiré aucune leçon des échecs passés. Alors justement, aujourd'hui, s'il faut ressouder la nation, il faut absolument repenser et revisiter l'orientation de la politique étrangère turque. Et il faut absolument sortir la Turquie de l'engrenage syrien et du bourbier moyen-oriental. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, la crise syrienne a eu des conséquences absolument désastreuses à l'intérieur de la Turquie.
C'est 2 millions de réfugiés syriens.
Oui,
en plus
du coût économique de ces réfugiés et évidemment des conséquences sur le plan de la sécurité avec les attentats que l'on connaît et avec la résurgence d'un islam radical à l'intérieur de la Syrie, notamment par exemple dans la ville d'Adiyaman qui aujourd'hui voit l'émergence de cellules de Daesh.
Léo Maillet.
Peut-être une question sur le rôle de l'Iran et les nouveaux enjeux qu'il va amener dans cette scène régionale où la Turquie avait avant un rôle de prééminence. Jean-Marc Hou.
Je crois que par rapport à l'Iran, finalement, maintenant, 4 ans et demi après le début des printemps arabes, la Turquie se trouve en situation délicate. Après les printemps arabes, au tout début, vous vous souvenez du débat sur le modèle turc, la Turquie apparaissait un petit peu comme le grand bénéficiaire de ce qui était en train de se passer. Aujourd'hui, au contraire, je crois qu'elle est dans une situation difficile parce qu'elle voisine un conflit qui est terrible, qui produit des effets sur la Turquie qui sont très importants, en particulier ce problème des réfugiés, mais qu'elle a à la fois à gérer finalement de nouveaux acteurs dans des États qui n'existent plus, et souvent avec de fortes contradictions. Finalement, aujourd'hui, la Turquie... bien évidemment, est en position de rivalité avec les Kurdes, notamment en Syrie. Elle n'est plus en position de convergence d'intérêts comme elle a pu l'être avec les différentes organisations djihadistes et en particulier l'État islamique, ce qui provoque d'ailleurs des attentats sur son sol. Et finalement, de par son faible engagement par peur des Turcs dans la coalition anti-Daesh, elle déplaît d'une certaine manière à ses alliés occidentaux, alors que la logique voudrait qu'elle revienne en fait vers ses alliés occidentaux, finalement tout en ayant dans la région deux acteurs très importants qui sont la Russie et l'Iran, et avec lequel finalement elle se trouve sur le plan stratégique en position antinomique. Donc elle est prise dans une situation qui est extrêmement complexe à l'heure actuelle, et je dirais que la politique hein, finalement du zéro problème avec nos voisins de Davutoglu, de ce point de vue-là, est en train de subir un revers qui est assez fort. Mieux aurait valu peut-être à ce moment-là conserver une politique finalement d'alliance traditionnelle avec l'Occident, avec l'OTAN, et justement une politique traditionnelle de prudence vis-à-vis de ses voisins et de non-implication dans les conflits de la région.
Max Valentin-Robin.
Oui, on peut se demander d'ailleurs aujourd'hui si la Turquie version AKP n'est pas finalement prisonnière de sa récente politique syrienne, puisque on l'a vu lors de sa victoire électorale, il y a eu un groupe de 12 mouvements armés opposés à Bachar al-Assad qui ont envoyé un message de félicitations à l'AKP pour sa victoire électorale. Donc on peut se demander si d'une certaine manière, maintenant, l'AKP n'est pas prisonnière de sa politique passée à l'égard du conflit syrien.
Jeanne Ajabour, peut-être, pour une réaction.
Oui, c'est-à-dire, je reviens sur ce que Jean-Marc Hou vient de dire, le zéro problème avec les voisins s'est transformé aujourd'hui en zéro voisin sans problème. Et c'est tragique pour la Turquie. Mais justement, l'intelligence aujourd'hui du discours politique de l'AKP, c'est de dire... Oui, c'est un zéro voisin sans problème, mais ce n'est pas grave parce qu'on n'est pas en fait dans une situation d'isolement sur la scène régionale. Au contraire, nous sommes dans une situation de solitude précieuse. Donc la Turquie fait cavalier seul, justement au nom de la défense des valeurs, des droits de l'homme, etc. Ce concept de solitude précieuse, c'est quand même un moyen absolument intelligent de sublimer l'échec de la politique de zéro problème avec les voisins.
Sur les questions de l'Union européenne, est-ce qu'on peut voir les négociations d'adhésion de la Turquie être relancées, Jean-Marc Roux ?
Effectivement, ce qui l'a fait dire, c'est la crise des réfugiés, et notamment la prise de conscience par les Européens du caractère aigu de cette crise au cours des dernières semaines et du rôle que pouvait jouer la Turquie. Ceci dit, pour l'instant, cette soi-disant relance de la candidature turque, elle est très conjoncturelle. C'est un petit peu les Européens, le président du Conseil européen, Madame Merkel qui vont en Turquie et qui lui disent écoutez, laissez ouverte votre frontière au sud, mais surtout bloquez votre frontière au nord.
L'Europe a plus que jamais besoin de la Turquie, c'est ce que vous nous dites, Jean-Marc.
Alors il y a un peu deux stratégies, c'est soit on a une stratégie conjoncturelle et on dit à la Turquie soyez un bon concierge des flux migratoires entre l'Orient et l'Occident. Soit on pense, au contraire, que la Turquie peut jouer un rôle à partir du moment où elle sera véritablement considérée comme un vrai partenaire et un vrai gardien, effectivement, des frontières européennes.
Léo Maillet.
Est-ce que vous pensez que cette attitude de la part des dirigeants européens peut encore plus éloigner l'Europe du regard de l'opinion publique turque ?
Max Valentin-Robert.
De toute façon, lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion, l'attachement des Turcs à la volonté d'intégrer leur pays à l'Union européenne n'a fait que diminuer au cours de ces dernières années. Donc il est clair que les attitudes aussi bien des Européens que d'Ankara a eu un effet néfaste sur l'attachement des Turcs au projet européen.
Il faut voir surtout que plus l'Union européenne rejette la candidature de la Turquie, plus la Turquie reçoit des rebuffades de l'Europe et plus cela la pousse dans une politique de déviance et de contestation de l'Union européenne. Donc je ne crois pas que cette politique européenne est rationnelle et productive.
Jean-Marc Roux.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont les plus pro-européens en Turquie qui ont été déçus par les propositions justement conjoncturelles de relance de la candidature turque de Mme Merkel et du président du Conseil européen. Le président du parti kémaliste a parlé de bakchich. Il a dit en fait les Européens sont en train de tenter de soudoyer notre gouvernement. Alors même que l'AKP, même si là aussi elle a critiqué l'Europe, a été obligée d'écouter ses partenaires européens et s'est dit bon, il y a peut-être des choses à prendre dans cette volonté de relance de la candidature.
En tout cas, on a beaucoup dit que finalement ça n'intéressait plus la Turquie.
Ah non, l'adhésion à l'Union européenne reste une priorité dans l'agenda politique de l'AKP. À chaque fois que le programme politique de l'AKP est révisé, on voit que l'Union européenne figure parmi les priorités. Et moi, je pense qu'il y a deux raisons à cela. D'abord, le fait que pour la Turquie, intégrer l'Union européenne lui permettrait justement d'obtenir un statut de puissance à l'échelle internationale, et c'est son objectif. Et de deux, l'intégration à l'Union européenne permettrait à la Turquie de laver une humiliation passée, une humiliation historique, qui est celle qui remonte au XIXe siècle, quand l'Europe a qualifié la Turquie, l'Empire ottoman à l'époque, de l'homme malade de l'Europe. Et il y a un an et demi, Erdogan a dit « Aujourd'hui, nous ne sommes plus l'homme malade de l'Europe, c'est aujourd'hui l'Europe qui est l'homme malade ». Donc vous voyez bien que dans l'imaginaire politique et la conscience turque, cette humiliation est toujours présente, et une manière de la laver, ce serait de rejoindre l'Europe.
Max Valentin-Robert, mais alors très très rapidement.
D'ailleurs, on l'a vu pendant la campagne, par exemple, lors de son meeting à Strasbourg, Erdogan a tenu des propos très critiques vis-à-vis des chefs d'État européens. Il a volontiers joué cette carte pour se donner une meilleure image dans l'opinion.
Merci. C'est la fin de Géopolitique qui était enregistrée à l'Institut de sciences politiques à Grenoble à l'occasion de la tenue des journées internationales organisées par le Master Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po et la chaire Méditerranée-Moyen-Orient de la région Rhône-Alpes. Merci à nos invités. Jeanne Jabour, spécialiste de la diplomatie turque au Moyen-Orient, enseignante en relations internationales à Sciences Po et chercheur associé au CERI. Max Valentin-Robert, doctorant à Sciences Po. Jean-Marc Roux, directeur du Master Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po. Et Léo Maillet, étudiant du Master Méditerranée-Moyen-Orient ici à Sciences Po. Géopolitique était signée Marie-France Chatin et Manu Pochez à Grenoble, Véronique Durand et Nathalie Laporte à Paris. Demain, nous serons toujours à Sciences Po pour parler des nouveaux enjeux pétroliers et gaziers, facteurs de recomposition stratégique en Méditerranée orientale et Moyen-Orient. À demain.